Voilà, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Je vous propose ce matin de continuer la suite sur l'influence du monde comme obstacle à la sanctification. On a vu la semaine dernière le piège de la consommation spirituelle, être des chrétiens qui consomment comme ce monde fait. Et ce matin, je vous propose d'aborder un autre sujet qui concerne aussi l'influence du monde, mais avant. Avant, on a des enfants ce matin, et peut-être que vous n'étiez pas là aussi la semaine dernière. Du coup, je vais vous poser la question que j'ai posée la semaine dernière. On va voir si vous avez retenu au moins quelque chose. On parle du monde. Ici, c'est quoi le monde? De quoi il s'agit? Quand Dieu parle du monde dans la Bible, de quoi il s'agit? Des règles. Ah ouais, c'est bien, vous me rassurez. Vous avez écouté. Le monde, du coup, effectivement, c'est les règles. Du coup, le monde, ce n'est pas la planète. Ce n'est pas la création, qui est bonne hein, d'ailleurs, ce n'est pas les personnes, ce n'est pas non plus la société, ce sont les règles, les valeurs qui régissent ce monde. J'ai pris cet exemple pour les enfants, c'est l'exemple que j'ai pris la semaine dernière. Ici, on a ce qu'on appelle, voilà, c'est un sport, c'est le football. Et dans un football, du coup, ça se joue avec un ballon, un terrain, et il vaut mieux des joueurs quand même. Le terrain, ici, ça représente la société. Plutôt, le terrain représente la création, la terre. Les joueurs représentent ici la société, et du coup le monde, il ne se voit pas ici. Le monde ici, c'est les règles, et imaginons que les règles disent que pour gagner au foot, il faut tricher, il faut voler les serviettes de l'adversaire, comme on l'a vu il n'y a pas longtemps là, il faut tuer l'adversaire et ne penser qu'à soi. Si la règle au foot, c'est cela, le monde, du coup, c'est cela. Du coup, ce n'est pas ici l'image, le monde, il ne se voit pas. C'est les règles qui régissent ce monde. Par contre, si la règle, c'est le foot tel que l'on entend, du coup, tout change. Donc, c'est les valeurs ici qui régissent ce monde. Et la Bible ici est assez claire, les valeurs qui régissent ce monde sont à l'opposé des valeurs du royaume de Dieu. C'est ce que Jésus va rappeler durant ses 3 ans de ministère, et c'est ce que les différents apôtres, notamment Jean, va rappeler, n'aimez pas le monde. Le même Jean qui va dire, Dieu a tant aimé le monde. Et finalement, ce n'est pas du même monde dont il s'agit ici. Et Dieu nous appelle du coup à être vigilants. Le monde, il n'influence pas seulement ce que nous croyons. Il influence la manière dont nous croyons. Et ce monde-là, c'est ce que j'avais dit la semaine dernière, on est tous influencés. La question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on en fait. On baigne tous dans ce monde, et Dieu ne nous appelle pas à nous retirer de ce monde. Il nous appelle à vivre dans ce monde, mais du coup en prenant garde à nous-mêmes. Pour aborder les sujets de ce matin, est-ce que ça va déjà? C'était le rappel de la semaine dernière. Pour aborder le sujet de ce matin, je vais vous poser une question. Alors c'est une question surtout, je pense que c'est les enfants surtout qui vont me répondre. Qui aime jouer avec de la pâte à modeler? Alors, même les adultes répondent. Alors je vous pose une question. Une question, s'il y a des enfants, dites-moi. Qu'est-ce qu'on peut faire avec de la pâte à modeler de couleur bleue, verte et orange? Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Un drapeau, ouais, tout à fait. Autre chose? Une fleur? Allez-y, hein. Bleu, vert et orange. Il y en a qui ont de l'idée. Ce qui est pratique avec la pâte à modeler, c'est que ça fait créer, ça suscite l'imagination, ça nous pousse à imaginer des choses, et on peut tout faire. Tout ce que l'on peut voir, on peut le reproduire avec la pâte à modeler. Bon, moi je suis jeune papa, je suis en plein dedans, il y en a partout chez moi, y compris sur les murs, donc les enfants ils savent quoi faire avec. Et du coup avec la pâte à modeler, avec ces 3 couleurs, on peut faire un dinosaure. Moi, du coup, j'essaie d'apprendre à mes enfants de faire des choses qui sont jolies. Ça tient pas longtemps. Et avec ces 3 couleurs, on peut faire ça. Eux, si je leur passe la pâte à modeler, la même pâte, hein, je leur passe la même pâte, ils vont me faire... Tu peux mettre la suite. Ils vont me faire ça. C'est le truc le plus terrible, c'est mélanger les couleurs, prendre dans la main, soit jeter sur le frère ou la sœur, ou en coller partout. Le souci ici, c'est pas la pâte. Du coup, ici, c'est quoi qui régit, qui fait que cette pâte, du coup, change en fonction on fait un bel objet, un coucher de soleil, un drapeau, ou une boule, informe, mélangée, qui peut faire joli, peut-être dans l'art, j'en sais rien. Mais voilà, qu'est-ce qui donne exactement la forme à cette pâte? L'attention, ouais, la pensée. Finalement, c'est celui qui décide de la forme de la pâte. Celui qui décide de faire quelque chose de cette pâte, c'est lui qui va choisir sa forme. La pâte, elle ne choisit pas sa forme, elle est malléable, et c'est ce qui l'entoure quelque part qui va la former. Si tu appuies dessus, elle devient plate. Si tu veux mélanger, ça se mélange. Et si tu la mets dans un moule, elle prend la forme du moule. Et le sujet de ce matin, je vais vous parler ici de la conformité. Ce monde, un des influences qu'il a et que la Bible met en garde, c'est la pression de la conformité. Et mon titre de ce matin, c'est « Ne prends pas la forme du monde ». Dieu nous appelle à ne pas prendre le moule du monde, mais en tant que chrétien, notre pâte à modeler à nous, elle doit être différente. La Bible dit que le monde fait parfois la même chose avec nous que cette pâte à modeler. Et quelque part, nous sommes un peu comme cette pâte. Le monde appuie, il propose des formes. Et sans nous en rendre compte, bien souvent, on finit par lui ressembler. Le moule du monde commence à être notre moule à nous. Et le danger, ce n'est pas d'être une mauvaise pâte, mais de laisser le monde nous donner sa forme. Le problème, ce n'est pas nous. C'est à l'extérieur, quelque part, qu'est-ce qui vient influencer ce que je suis? Est-ce que ça va? Et je vous propose du coup de prendre Romains chapitre 12, ça va être le texte de ce matin, les versets 1 et 2, un court texte. Romains chapitre 12, où Paul va parler justement de la conformité, du danger de ce monde. Et il va dire ceci: « Frères et sœurs chrétiens, Dieu est plein de bonté pour nous. » Il commence bien, Paul. « Alors je vous demande ceci, offrez-lui votre personne et votre vie, c'est le sacrifice réservé à Dieu et qui lui plaît. Voilà le vrai culte que vous devrez lui rendre. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle. Ainsi, vous pourrez savoir ce qu'il veut, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. » Mon premier point ici, ça va être: le monde cherche à nous donner une forme. Cette forme, elle peut être multiple et variée. Et ce monde, il n'est pas neutre. Il a un moule. Et ce moule, il est à l'opposé de ce que nous sommes. Quelquefois, même nous, on se rend même pas compte du moule du monde. Et Paul va dire ceci: ne vous laissez pas modeler par le monde actuel. Paul ne dit pas quitter le monde, il dit pas combattre le monde, il dit ne prenez pas sa forme. C'est différent. Parce que ce monde ne nous attaque pas frontalement, il nous forme silencieusement. Et il y a un exemple dans la Bible, un exemple peut-être que vous connaissez, en tout cas que les enfants, non, je pense que vous connaissez, c'est Daniel. Daniel, ce n'est pas un pasteur, c'est un prophète connu dans l'Ancien Testament, ou plutôt ce n'est même pas un prophète, c'est un jeune adolescent, et voilà, c'est une tête pensante. Et Daniel, il est issu du peuple d'Israël, et il vient de tout perdre. Il vient de perdre son pays, il vient de perdre sa maison, il vient de perdre sa liberté. Pourquoi ? Parce que le peuple d'Israël a été amené de force à Babylone. Parce que le peuple a désobéi, voilà, c'est tout le contexte. Dieu va utiliser Babylone pour déporter son peuple et amener le peuple captif. Le roi de Babylone, il va faire quelque chose d'intéressant. Il décide de prendre les jeunes les plus intelligents du peuple qui vient de conquérir et il ne les met pas en prison. Il les met à l'école, à son école. Dans son école, il va les mettre pendant 3 ans et ils vont apprendre, les jeunes juifs, une nouvelle langue, une nouvelle façon de penser, une nouvelle vision du monde. Babylone forme. Elle ne force personne. Elle forme. Et Daniel, c'est le chapitre 1, premier chapitre de Daniel, on voit, il n'y a aucune... ici, le roi ne force personne. Il propose autre chose. Et le monde propose autre chose. Ensuite, on va voir que le roi va leur donner de nouveaux prénoms. Le nom de Daniel signifie « Dieu est mon juge ». Daniel, du coup, fait référence à Dieu. Et du coup, je ne sais pas si vous le savez, hein, mais en fait, dans la déportation, Daniel, ce ne sera plus son nom. Son nom, ça va être Belteshazzar. J'arrive même pas à le dire. Et du coup, le roi va changer le nom de Daniel en un nom païen. Et ce nom, il parle des dieux de Babylone. Daniel, qui avait un nom qui portait le nom de Dieu, le monde va lui imposer un autre nom. Daniel n'a pas le choix. On l'appelle comme ça, il va l'accepter. Et le roi va ensuite donner de la même nourriture, une nourriture du coup différente de ce qu'il mangeait du coup en Israël. Et c'est la nourriture royale, du palais royal. C'est un honneur ici que le roi lui fait, un privilège. Et Daniel va comprendre ici une chose importante, c'est que s'il accepte tout sans réfléchir, sa foi va doucement changer. Il ne peut pas tout accepter. Il ne peut pas non plus se couper de ce monde. Il doit garder cette foi, mais il sait où mettre la limite. Et la Bible va dire ceci, « Daniel résolut dans son cœur de ne pas se souiller. Il ne va pas manger la nourriture que le roi lui propose. » Il va même lancer un défi du coup à l'intendant en disant « Donne-moi des légumes. Pendant 10 jours, si je suis en meilleure forme que les autres, tu me laisseras continuer. » C'est ce qui va se passer. Belteshazzar, on peut dire Daniel, ici du coup va poser une limite à ce monde qui cherche à l'effacer. À effacer sa relation à Dieu, à effacer quelque part sa foi. Babylone ici ne dit jamais « renie ton Dieu ». Et notre monde ne dit jamais « ne crois pas à ton Dieu ». Ce que le monde nous dit, c'est « sois comme nous ». C'est plus subtil. Ça veut dire la même chose, mais c'est beaucoup plus subtil. On nous propose un autre choix. Et la conformité, mes frères et sœurs, ce matin, commence souvent par des choses neutres. Adopter le même langage grossier que les copains à l'école, parce que tout le monde parle comme ça, ou que les collègues de travail, parce que ça ne s'arrête pas qu'à l'école. On adopte un langage différent. Pour être bien intégré, bien accepté, on peut aussi adopter des habitudes contraires à la Bible, parce que c'est normal. Être d'accord sur ce que Dieu désapprouve, pour ne pas paraître bizarre. On sait que Dieu n'est pas d'accord, mais on va faire semblant d'approuver, pour quelque part rentrer dans le moule de ce nom. Et là, on a deux choix. Il s'agit de faire preuve d'amour envers ceux qui ne connaissent pas Dieu, mais aussi de fermeté. De faire preuve ici de sagesse. De savoir comment répondre. Face à un monde qui appelle le mal bien et le bien mal, nous avons ce mandat que Dieu nous donne de ne pas tomber dans ce piège de la conformité. Paul dit exactement ceci dans ce passage, ne prenez pas la forme du monde. On peut remarquer une chose intéressante, c'est que Daniel, il ne va pas fuir Babylone. Il ne fuit pas Babylone, il a refusé de devenir Babylone. C'est différent. Et d'ailleurs, son témoignage va bouleverser ici son entourage à Babylone. Va marquer du coup ceux qui le connaissent. Tout le monde va reconnaître que Daniel, c'est un homme qui aime son Dieu. Alors qu'il vit loin de son pays, dans un peuple quelque part qui ne connaît rien de Dieu. Ça va ? Mon deuxième point, c'est que Dieu veut transformer notre manière de penser. C'est Paul qui va dire ceci par la suite, mais laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle. Le mot ici qui est employé, transformer, parle d'un changement profond, un changement intérieur. Comme une chenille qui commence et qui devient un papillon. La sanctification, quelque part, c'est comme ce processus. Elle ne commence pas par des règles à suivre, mais par une manière de penser renouvelée. Paul ne commence pas ici par les comportements. Il commence par l'intérieur. Si je pense comme le monde, je finirai par vivre comme ce monde. Et le combat spirituel ici commence dans la manière de penser Dieu nous-mêmes. De penser Dieu, de penser le monde. Comment je pense Dieu ? Je vais prendre un exemple, je vais poser cette question. Imaginez que je vous présente un verre d'eau salée. J'ai mis beaucoup de sel, là c'est même un verre qu'on prend avec de l'eau de mer. Ce verre, du coup, il est très salé. comment je peux faire pour que dans ce verre, l'eau redevienne douce sans renverser le verre. Vous pouvez rajouter ce que vous voulez, mais comment je fais? Est-ce que vous avez une idée? Alors vous pouvez faire l'évaporation, mais le verre, il n'y aura pas d'eau. Si vous en rajoutez, ça redeviendra salé. Comment je peux faire pour que ce verre d'eau salée, sans le renverser, il peut quelque part redevenir de l'eau douce, de l'eau qu'on peut consommer? Alors on peut la filtrer, mais pour la filtrer, il faut la renverser. Sans renverser, si je dois que rajouter des choses. Ah ouais, là on tombe dans le monde technique, là, il y a des pastilles. Ouais, c'est possible, j'y ai même pas pensé, Jackie, tu vois. C'est possible. Alors, il y a une solution beaucoup plus simple que des... Ouais, exactement, c'est de rajouter de l'eau. Ce qu'il faut faire, vous ferez l'expérience, hein. Exactement, ça va déborder. Et vous rajoutez de l'eau de source de manière voilà, pendant un certain temps, et l'eau ne sera plus salée. Au bout d'un moment, l'eau va déborder, l'eau salée va ressortir. Et c'est l'eau de source qui va prendre la place. Ce que Dieu nous appelle à faire dans le renouvellement de l'intelligence, c'est exactement cette image. Il ne s'agit pas de tout renverser, il s'agit de remplir par autre chose. On ne peut pas enlever ce qui est en nous. On ne peut pas enlever le monde. Mais c'est quelque part ne pas laisser ce monde nous remplir, l'eau salée de ce monde, pour l'empêcher, c'est qu'il faut remplir par autre chose. Si on remplit par rien, l'eau deviendra salée. Mes frères et sœurs, c'est inévitable. L'eau salée, ici, c'est la manière de penser du monde. Et l'eau douce, c'est la parole de Dieu, mais pas uniquement. La parole de Dieu, c'est facile. La parole de Dieu appliquée par le Saint-Esprit. La parole de Dieu mise en pratique. Si nous sommes continuellement remplis par cet esprit qui nous pousse à connaître la parole de Dieu, et la parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous présente les valeurs du royaume. Du coup, ce monde, on pourra s'y baigner, s'y tremper, il n'aura aucun effet sur nous. Parce que nous sommes continuellement remplis par autre chose. C'est ce que Paul dit, le renouvellement de votre intelligence, de votre pensée. Quelque part, c'est placer régulièrement notre pensée sous cette source. Filtrer ce qui entre, et je nous pose la question, qu'est-ce qui nourrit notre pensée ce matin? Est-ce que c'est ce que le monde répète? Est-ce que ce qui nourrit ma pensée continuellement, c'est la télé, les réseaux sociaux? Voilà, rien de mauvais dans l'absolu. Mais qui peuvent le devenir si ma seule source de pensée, c'est ça? Ou est-ce que c'est ce que Dieu dit? Est-ce que déjà je sais les valeurs du royaume? Et si je ne le sais pas, ben, j'ai la parole de Dieu à ma disposition pour savoir faire la différence entre le moule de Dieu et le moule de ce monde. C'est Paul qui va dire du coup ainsi, c'est la suite, hein, vous pourriez savoir ce qu'il veut, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Ça ne tombe pas du ciel. Ça tombe par un renouvellement continuel de nos pensées. Sans transformation intérieure, nous finirons par appeler comme ce monde le bien, mal. Et ce que le monde du coup dit, on va dire la même chose. Sans avoir conscience quelque part que c'est positif ou négatif. Je prends un exemple. Bon, j'espère que, voilà, peut-être que ça va parler à certains, voilà, j'en sais rien. Mais j'ai lu un article assez triste, hein, mais bon, c'est la réalité. Et je veux juger personne. Enfin, je cite cette histoire, c'était pas prévu. Et si vous vous sentez concerné, ben voilà, ça permettra de changer. Mais voilà, j'ai lu là dans un article, c'est un article chrétien, que apparemment dans nos pays occidentaux, les chrétiens évangéliques font croire à leurs enfants de plus en plus au Père Noël. C'est en augmentation. Et du coup, ici se pose la question. L'article est très bienveillant. Hein, et du coup, se posait la question, et il parlait quelque part sous le prisme de l'influence du monde. Les chrétiens ici, ils ne sont pas dans la volonté de déplaire à Dieu, parce qu'il a posé la question, il n'y a pas une volonté, il n'a pas senti une volonté de déplaire à Dieu, mais un manque de connaissance des valeurs du royaume. Où du coup, on minimise le mensonge, ce que c'est Noël d'ailleurs. Et du coup, on tombe, un, dans le piège de ce que ce monde fait de Noël, et de deux, par le mensonge. En prenant les mêmes argumentaires que ce monde, un exemple. Un exemple que je cite, il peut y en avoir plein d'autres. Ici, le pied, quelque part, c'est la connaissance de ce que Dieu veut. Qu'est-ce que Dieu dit ? Et qu'est-ce que je fais ? Le renouvellement de l'intelligence dont Paul parle, c'est placer quelque part régulièrement notre pensée sous cette source, la parole de Dieu. Alors vous pourrez me dire, et je vous pose cette question, est-ce qu'on peut lire la Bible régulièrement et pourtant penser comme le monde ? C'est possible ? Ouais, c'est possible. Et pourquoi alors, du coup ? Parce qu'on vient de dire que pourtant... Si on ne la met pas en pratique, bon, c'est bien, vous avez toutes les réponses ce matin. Oui, parce que lire la Bible, c'est facile. Dans la Bible, il y a un exemple. Est-ce que vous connaissez un exemple de personnes qui connaissaient la parole et qui vivaient selon le monde ? Les pharisiens. Les pharisiens. Les pharisiens, ils connaissaient très bien la parole. Hein. Et pourtant, Dieu va leur dire, vous êtes les fils de Satan. C'est fort, hein ? Et Jésus va dire du coup ceci, vous sondez les Écritures et vous ne voulez pas venir à moi. Et Jacques va dire ceci, mettez la parole en pratique et ne vous bornez pas à l'écouter. Imaginons que vous ayez faim, j'imagine la situation, et je dis bon, allez, vous avez faim, je vous passe un livre de recettes. Est-ce que du coup ça va calmer votre faim ? Non, ça va même peut-être vous donner encore plus faim. Mais ça ne calmera pas votre faim. Pourquoi ? Parce que ce qu'il faut, c'est se mettre à l'œuvre, c'est faire à manger. Si vous regardez que le livre et que ça calme, ce serait pratique, hein. Ah, je vous avoue, ce serait pratique. On lit un livre de recettes et du coup, le plat, il arrive tout fait. Oh là là, c'est magique, hein, ça. Mais ça n'existe pas. On ne peut pas faire ça. Et du coup, je pourrais vous offrir le meilleur livre de recettes du monde. Ça ne remplacera pas, du coup, vous aurez toujours faim. Et du coup, pour nous, c'est la même chose. Ici, il s'agit juste pas de lire la parole, mais de la vivre. C'est ce que Jésus va rappeler longuement. De mettre en pratique cette parole, qu'elle descende de l'intelligence au cœur. Pour que du coup, cette parole puisse faire son effet. Alors, prochaine question. Si vous essayez, du coup, de ne pas ressembler au monde par vos propres forces, à quoi vous allez ressembler au bout de 2 jours ? Vous vous dites, allez, ok, j'ai compris, je vais essayer de ne pas ressembler au monde. Allez, vous mettez un cadre quelque part. Au bout de 2 jours, qu'est-ce qui va se passer ? Allez, au bout de 2 jours, allez, une semaine pour les plus téméraires. Vous allez être découragé, effectivement. Épuisé, démotivé, ou vous allez finir comme les religieux, légalistes, durs. Et c'est les 2 choix qui s'offriront à eux. Alors vous allez me dire, mais du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on doit faire, du coup ? Comment résister, du coup, à ce moule du monde qui est puissant ? Ce monde, il est puissant. On ne peut pas le minimiser. Et du coup, comment faire ? Et c'est mon dernier point, du coup. Le dernier point ici, c'est Christ est le modèle, le moteur et le but. C'est ce que Paul va dire au verset 1. Frères et sœurs chrétiens, Dieu est plein de bonté pour nous. C'est pour ça qu'il commence comme ça. Dieu est plein de bonté pour nous. Alors je vous demande ceci. Offrez-lui votre personne et votre vie. Offrez-lui votre personne et votre vie. La clé, elle est là. Offrir tout ce que nous sommes devant Dieu. D'autres versions vont dire offrir notre corps, notre être entier à Dieu. C'est le sacrifice réservé à Dieu et qui lui plaît. Voilà le vrai culte que vous devez lui rendre. Paul nous donne une solution, devenir un sacrifice vivant. Paul ne demande pas un effort héroïque parce qu'il sait que ça ne marchera pas. Il dit, Dieu est plein de bonté pour nous. C'est beau, hein ? Dieu est bon pour nous. Et tout part du coup de ce que Christ a déjà fait. Se réfugier dans cette bonté de Dieu, lui offrir tout. Et Dieu fera. Dieu fera dans ma vie. Si je lui donne tout, pas 90% ou 50%, tout. Ça, c'est dur. Hein. Offrir tout à Dieu. Je prends un exemple. Je suis en plein dedans parce que j'ai changé ma chaudière il n'y a pas longtemps parce qu'elle est tombée en panne. C'est un peu le mauvais moment hein, parce qu'il fait froid. Et du coup, je suis retombé dans la réflexion thermomètre, thermostat. Est-ce que vous savez faire la différence? C'est quoi la différence? Je pose la question là. Il y a des enfants en plus, donc c'est bien. Si vous savez, les enfants, dites-moi. Hein. C'est quoi la différence entre un thermomètre et un thermostat? Un thermomètre. Oui. Elle mesure la chaleur, ouais. Et s'il fait froid, elle mesure le froid. Et le thermostat, est-ce que tu sais c'est quoi un thermostat? Elle règle la température, hein. C'est bien, on a un génie climatique là. C'est... elle règle, elle fixe la consigne. Un thermomètre ne décide de rien. Un thermomètre, il est se contente d'indiquer la température qu'il subit. Vous êtes d'accord avec moi? Un thermostat, lui, il ne se contente pas de constater, il fixe une température. Là, ce matin, je suis ici, je ne suis pas chez moi, pourtant je suis confiant, parce que je sais qu'en rentrant, il fera 19 degrés. Pourquoi? Parce que j'ai réglé mon thermostat à 19. Et je sais que, sauf problème, bon, je ne pense pas là, mais il fera 19 chez moi en rentrant. Ce n'est pas par l'action du Saint-Esprit ici, c'est par une action physique et simple. Mais voilà, c'est une invention pratique, le thermostat. Et peu importe qu'il fasse 11 degrés ou moins 5, s'il fait même moins 5 ou moins 8, je ne vais pas m'inquiéter, parce que le thermostat va jouer son rôle. Alors mon portefeuille s'inquiétera un peu plus, ça c'est différent, mais il fera 19 degrés. C'est le rôle ici du thermostat. Il y a une chose qui est importante, c'est que le thermostat, il ne décide pas tout seul. Mon thermostat, il ne décide pas du jour au lendemain. Aujourd'hui, je vais passer à moins 5, parce qu'il m'a énervé, le proprio. Aujourd'hui, je passe à 25, allez, il va un peu chauffer. Il décide de rien. C'est qui décide? C'est moi qui décide. C'est moi qui l'ai réglé. Et ce thermostat, du coup, il est relié à une source d'énergie, du courant, qui permet de faire son travail. Le chrétien conforme, mes frères et sœurs, ce matin, ressemble à un thermomètre. Le chrétien qui se plaît dans la conformité de ce monde ressemble à un thermomètre. Il subit la température de la culture autour de lui. Quand la société baisse ses standards et ses valeurs, il les baisse aussi. Quand il est à l'église, sa température spirituelle remonte un peu. Puis il redescend dès qu'il sort de l'église parce qu'il va retrouver sa famille, ses copains. Ça, c'est le chrétien conforme à ce monde. Sa température, elle varie tout le temps, en fonction de l'extérieur, comme la météo. C'est un thermomètre. Le chrétien sanctifié ressemble à un thermostat. La consigne ne change pas en fonction de ce qui se passe autour de lui. Elle reste la même, qu'il soit dehors ou à l'église. Qu'il soit dans une situation difficile ou quand tout va bien, sa température reste la même. C'est ce que Dieu nous appelle ici à vivre. Mais ce n'est pas parce que ce chrétien il est plus fort ou plus volontaire hein, qu'il reste le même. Le thermostat ici ne change pas la température par lui-même. Je l'ai dit tout à l'heure, le thermostat il change parce qu'il est relié à une source d'énergie et parce qu'il est connecté à quelque chose d'autre. Nous, c'est Dieu. L'équivalent du propriétaire, c'est Dieu. Le thermostat, il ne fait rien d'autre. Il fait juste se fixer à la température de ce que le propriétaire, Dieu, décide. C'est ça qui est beau. C'est que nous ne sommes pas tout seuls à dire qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, quelle température je vais me mettre. C'est Dieu qui fait. Par contre, ce que Dieu nous demande, c'est de lui offrir tout. Si le thermostat il commence à faire à sa guise parce qu'il dit « moi je m'offre tout, mais finalement je fais ce que je veux », ça ne marchera pas. De la même manière, ici, le chrétien sanctifié est relié à Dieu, il reçoit ses instructions de Dieu, et Dieu agit à travers lui pour transformer l'atmosphère, l'environnement autour de lui. Ça, c'est le chrétien. le thermostat que nous sommes, quand le chrétien arrive quelque part, l'environnement doit changer. Ce n'est pas le monde qui l'influence, c'est le monde qui se pose la question, il se passe quelque chose. Sa température, elle est à là, et sa température nous influence. Son comportement, sa parole, peu importe. Il y a différentes manières de vivre, d'être chrétien. C'est être qu'il faut. C'est pas parler, c'est être. Et l'être, ça parle. Sur le long terme, ça parle à tout le monde. Alors, ce sera pas facile, hein. Forcément, quand il y a de l'opposition en face, c'est dur. Mais c'est faire confiance à Dieu. Jésus ici, c'est le seul qui a parfaitement refusé le moule de ce monde. On a voulu le faire rentrer dans le moule du Messie, par exemple, politique. Les Juifs n'attendaient pas Jésus comme nous le connaissons. Ils attendaient un Jésus qui écrase les Romains par la force, qui libère Israël du joug de l'Empire romain. C'est ce que les Juifs attendaient. Mais ici, Jésus a choisi le moule du serviteur souffrant. Il n'a pas résisté par effort de volonté, mais parce qu'il était offert à son Père. Et Jésus, qui était Dieu, a joué ce rôle de thermostat, avec l'impact que nous connaissons jusqu'à aujourd'hui. En face, du coup, il a eu de l'opposition, il a eu aussi des bons moments, mais beaucoup d'opposition, et pourtant il n'a pas changé. Son moule n'a pas changé. On l'a vu la semaine dernière, hein. Qu'est-ce que même Jésus va dire quand tout le monde le quitte? Il va dire à ceux qui restent, et vous, vous ne voulez pas partir? Parce que les valeurs du royaume de Dieu ne doivent pas changer. C'est à ce monde de les accepter et d'accepter Christ. Le sacrifice vivant, c'est dire, Seigneur, mon corps et ma vie ne m'appartiennent plus. Donc le monde ne peut plus les mouler. Parce qu'elles t'appartiennent à toi. Je vous cite une phrase de Alfred Kuhn. Je ne sais pas si vous connaissez Alfred Kuhn, donc c'est un théologien et pasteur, il est décédé maintenant. Un grand théologien, assez équilibré, évangélique. Il va dire cette phrase. « Si vous n'offrez pas votre vie à Dieu chaque matin, le monde se chargera de la façonner avant midi. » On ne peut pas être neutre dans cette histoire. Soit nous passons du temps devant Dieu. J'ai l'impression de me répéter, hein, mais c'est toujours la même chose quelque part. Soit c'est ce monde avec qui nous passerons du temps et qui nous formera. Daniel, qu'est-ce qu'il va faire? Je ne sais pas si vous vous rappelez, il va passer 3 fois par jour du temps avec Dieu. Alors il n'y a pas de règle. Alors là, Alfred Kuhn, bon, il dit le matin, c'est un exemple. Hein. Moi, c'est pas, je ne suis pas du matin, vraiment, je suis du soir. Peu importe. Mais la pensée, elle est là. Si nous ne passons pas du temps avec le Seigneur, ce monde, l'eau salée de ce monde, rentrera en nous. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué que les poissons qui vivent dans l'océan, même dans l'eau la plus salée du monde, ont une chair qui n'est pas salée. Pourtant, et ce n'est pas que les écailles, hein, parce qu'ils avalent de l'eau salée, pourtant ils s'y baignent dedans 24 heures sur 24. Et pourquoi? Parce qu'ils sont vivants. Et que, vu qu'ils sont vivants, ils ont un système interne qui filtre le sel et qui maintient l'équilibre dans leur corps. Parce que sinon, ça les tue. Mais dès que le poisson meurt, l'organisme qu'ils ont cesse de fonctionner et du coup, le poisson devient salé. Mais tant qu'il est vivant, le poisson, même dans l'eau salée, il va baigner toute sa vie hein, dans l'eau salée, il ne devient pas salé. Pour nous, ici, ça doit nous parler comme ce thermostat, comme ce verre d'eau. Le monde, ici, c'est un océan d'eau salée. Et si vous vous sentez ce matin devenir salé, devenir amer, matérialiste, égocentrique, c'est que la vie du Christ a besoin de couler à nouveau en vous. La sanctification n'est pas de sortir de l'océan, vous ne pourrez pas. Nous vivons dans ce monde, mais d'avoir un système interne, ce que Dieu va appeler le Saint-Esprit. Nous, poissons chrétiens, c'est le Saint-Esprit qui filtre, qui nous empêche d'être imprégnés par ce monde. Et le monde appuie de l'extérieur, mais Jésus, lui, transforme de l'intérieur. Il ne nous écrase pas, il nous renouvelle. Alors que le monde veut nous donner une forme, le Christ veut nous donner la vie. C'est différent. Dieu n'est pas là pour nous donner une autre forme, c'est la vie qu'il nous propose. Alors voilà, peut-être que ce matin, tu es présent, tu es peut-être croyant, et tu as laissé quelque part le monde façonner ta manière de penser. Ce matin, je voudrais te dire une chose, c'est que le Seigneur ne te condamne pas. C'est le début de ce passage. Dieu est plein de bonté envers nous. Et Dieu t'invite ce matin à revenir à lui, pour être transformé, renouvelé à nouveau. Si le poisson que tu es est devenu salé, ce n'est pas un problème. Le Saint-Esprit peut opérer en toi pour faire en sorte que ce moule, comme la pâte à modeler, tu puisses retrouver le moule de Dieu. Que tu puisses te transformer du thermomètre instable à un thermostat fixe qui ne varie pas en fonction de son environnement ou de ce qu'il vit, de ce qu'il traverse. Je vous propose de courber les têtes. Nous allons prier.